les petits verres arrivaient dans une boîte qui ressemblait à une boîte de camembert, en bois, hein, elle était en bois, la boîte. Ça arrivait par la poste?
Non, les premières pommes de terre, c'est un monsieur Ferrier.
Et puis on les gardait à la maison le temps qu'ils grossissent. Ils passaient dans une boîte à chaussures. Après, dans quoi?
Après, on était sur des espèces de planches avec, qui avaient comme un grillage.
Puis la magnanerie.
La magnanerie. Et je sais que pendant la guerre, la maman s'associait avec des jeunes couples qui étaient bien contents d'avoir une magnanerie et de partager la récolte, quoi. Alors eux, ils cueillaient la feuille et maman s'occupait des vers à soie. Et moi aussi. Mais j'allais plutôt cueillir la feuille avec les plus jeunes. Parce qu'il fallait leur donner, je crois, 3 fois par jour. Hein.
J'entends encore le bruit de la mastication quand ils étaient adultes.
Ça faisait un petit crissement.
Puis après, c'était le calme. Ils faisaient leur cocon et on n'entendait plus rien.
Entre 1825 et 1860, le nombre de mûriers augmente énormément dans le paysage. On va planter énormément de mûriers et donc il y a un investissement. Alors c'est un investissement d'abord des fermiers, des agriculteurs qui vont planter ces mûriers. C'est aussi un travail très important des femmes, parce qu'en fait c'est les femmes des agriculteurs et les enfants qui se chargent de ce qu'on appelle l'éducation des vers. Donc l'éducation des vers, c'est en fait à partir de la graine, donc qui est l'œuf. On porte ses œufs en petits sachets contre la poitrine pour que ça les tienne au chaud. Quand ils vont éclore, on les place sur un support avec des branches de mûrier pour les nourrir. Il faut que le mûrier soit frais, les feuilles soient fraîches. Et donc, il faut renouveler tous les jours. Donc ça demande une vigilance et un soin comme à des animaux quand même assez prenant. Et c'est souvent donc les femmes et les enfants qui s'occupent de ça. Et une des grosses activités agricoles, ça va être la vente de ces cocons.
Chaque famille d'Oise, ou presque, avait le privilège de faire naître le ver à soie, de le nourrir et d'arriver au cocon et ensuite vendre le cocon à une commerçante. À des commerçants ici le dit, hein, une famille, c'est la famille que j'ai épousée, la famille Bernard, place du Mazel, où la grand-mère de mon mari achetait les cocons dans des grandes corbeilles à linge. Et donc elle payait, comptant, et mon mari me disait, tu sais, c'était le premier argent que la femme disposait pour acheter les fournitures pour les enfants, pour la rentrée, tout ça. Ça correspondait, les dates. Quand les gens vendaient le cocon, leur cocon, il y a des corbeilles à linge remplies de cocons. C'est dire comme ils avaient travaillé et que la saison avait été bonne pour la feuille du mûrier.
En parallèle, donc, se développent des activités sur le territoire de dévidage et de moulinage du fil de soie à partir des cocons. Au moment où les moulinages se développent en Ardèche et en Drôme, c'est aussi une période où, à Lyon, où il y avait les tisseurs canuts qui travaillaient donc cette soie, on a beaucoup de bouleversements. Il y a des révoltes, il y a aussi des crises économiques. La révolte des canuts, elle entraîne en fait un besoin de déplacer certaines activités pour pouvoir mieux maîtriser la situation de production. Ici, donc, on a surtout des activités de ce qu'on appelle ouvraison. Donc, on dévide les cocons et ensuite on les transforme en fil avec le moulinage. Mais on a aussi des activités de tissage qui s'installent. Et plus particulièrement à Saillant, où il va y avoir une très grande entreprise de soierie, et également dans d'autres régions, dans d'autres endroits de la région, à Cray, à Toulignan. Enfin, après, il y a des très grands centres où la soie va prendre de l'importance. Et ce qui est intéressant quand on compare entre la laine et la soie, c'est qu'effectivement la laine a vraiment une importance très forte plus tôt. Par contre, la soie va elle, se développer dans le courant du 19e, plutôt autour du milieu du 19e, devenir très important, connaître des périodes de récession, parce qu'il y a différentes maladies du ver à soie qui peuvent ralentir un peu ça, mais il va perdurer beaucoup plus tard. Et du coup, c'est vrai qu'on voit que ce n'est pas les mêmes populations aussi qui travaillent dans les deux types d'activités. C'est toujours des femmes, mais dans la soierie, on va développer des outils qui vont être souvent manipulés, travaillés avec des ouvrières qui sont très jeunes. Notamment, donc des jeunes filles du secteur qui étaient recrutées à titre individuel, mais aussi les jeunes femmes qui étaient dans le couvent de Recoubo et qui étaient internes et qui avaient donc, pendant plusieurs années de leur vie, été placées là pour constituer leur dot, faire leur trousseau et travailler. Donc la baronne de Montrond crée en 1851 cette confrérie des sœurs du cœur de Jésus et Marie, qui est une confrérie de sœurs qui a comme vocation explicite l'encadrement des jeunes femmes dans le travail et dans l'internat des usines. Donc c'est vraiment une catégorie très particulière qui est créée à ce moment-là et qui est créée à Recoubo.
Ma douce mignonne, il y a 18 ans aujourd'hui qu'à peine tu venais de naître, que déjà loin de ta mère, l'on cherchait à t'éloigner.
Correspondance entre deux pensionnaires des couvents-usines.
Tu as grandi, mignonne, sans connaître ses caresses, ni l'affection, ni la tendresse de son cœur maternel. Mais Dieu, qui sait bien ce qu'il fait, n'a pas voulu te laisser comme cela, seule abandonnée sur la terre. Il vient de t'envoyer une amie, une sœur. Et cette sœur, c'est moi qui viens pour la première fois de ta vie peut-être te souhaiter une bonne anniversaire. Je te souhaite tout le bonheur possible pour te rendre heureuse, joie, santé. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour cela. Maintenant, je vais quitter ce lieu où j'ai passé mon enfance. Une petite partie s'est écoulée avec toi. Et c'est avec toi que j'achève ma minorité. Donc je me ferai un devoir de t'écrire, si tu veux me promettre d'être gentille autant pour moi que pour tes compagnes et tes maîtresses, pour que, quand tu viendras à Paris, que tu sois au moins une jeune fille comme il faut. Là, nous pourrons parler plus librement de toi-même, et moi aussi. En attendant ce grand jour, laisse-moi te redire encore une fois d'être bien sage pendant mon absence, afin que l'on ne puisse pas me faire des reproches. Il me reste encore à te dire d'oublier toutes les petites sottises que je t'ai faites durant mon séjour à l'écluse. Je ne vois plus rien à te dire pour le moment. Reçois avec tous mes bons souhaits les meilleures caresses de ta grande amie qui ne t'oubliera pas. Marie-Louise Champroux.
C'est aussi des filles qui étaient, comment dire, ça va être, je vais employer des gros mots, mais qui étaient en surplus dans la famille. Ouais. Plutôt que de les abandonner ou placer à la campagne dans des fermes, on les plaçait à l'usine de Recoubo. Le fait que ça soit aussi une œuvre d'enseignement, je pense que les parents, c'était aussi quelque part peut-être pouvoir donner à leurs filles la possibilité d'avoir une éducation, un minimum au moins. Parce que à ces époques-là, l'école n'est pas gratuite, laïque, obligatoire. Hein, donc il faut payer pour aller à l'école. Par contre, elle, en travaillant à Recoubo, se constituait un petit pécule pour pouvoir, à 21 ans, récupérer le pécule et se marier. Parce que là aussi, il y a toute une idéologie derrière, quand même, c'est de faire des femmes bien conditionnées pour être soumises à leur mari, pour faire des enfants, pour probablement repeupler la France. Enfin bon, les schémas qu'on connaît habituellement, hein, on y est dedans aussi.
Alors, Adi, à partir de 1829, donc là, on va voir des petites filatures de soie qui s'installent. Donc, il y a Jardin qui est sur le cours du canal de la Méros et qui a sa manufacture à l'aval de ce canal. On a Armand, qui est une très grosse société. Enfin, en tout cas, elle perdure pendant longtemps. Et eux, ils vont avoir une ouvraison, une filature de cocon. On a aussi Deville qui s'installe en 1825, donc un peu plus tôt. Donc c'est un moyen aussi d'avoir sur place l'ensemble de la chaîne opératoire. Et donc plus on va produire de cocons et plus certaines de ces entreprises vont pouvoir se développer et prendre de l'importance puisqu'on va avoir une plus grosse matière première. Donc dans les années 1870, il y a un moment de creux en fait, avec des difficultés à la fois qui sont liées à de la concurrence à l'échelle plus large. Il y a des soies qui arrivent d'Orient, donc du coup le marché français se décline. Il y a aussi des problèmes de maladies, des vers, etc. Mais on constate qu'elle s'est maintenue et qu'elle se renouvelle dans les années de la fin du 19e, de la toute fin du 19e et du début 20e, et qu'elle va se maintenir jusqu'en 1940. Et donc les derniers moulinages, c'est 1925-1941, donc juste avant-guerre, qu'ils vont fermer. Sur la production de la soie, c'est aussi en déclin, enfin en baisse, notamment avec la concurrence des fibres artificielles et puis des marchés mondiaux, enfin de la soie qui vient de plus loin. Mais on voit dans le paysage le maintien d'une grande partie de ces mûriers qui vont être quand même entretenus et soignés jusqu'à dans l'avant-guerre en tout cas. Et les cocons qui sont produits, quand ils ne sont plus transformés sur place, peuvent être envoyés. Donc il y a soit l'usine Naef à Saillant, qui elle s'est maintenue assez tard, soit des envois beaucoup plus loin pour la transformation. Donc jusqu'en 68, il y a cet accès à l'usine Naef. Cela dit, il faut bien noter qu'à partir des années 50, on travaille principalement des fibres artificielles là aussi. Donc la soie, elle a vraiment régressé après-guerre, en fait. Elle disparaît progressivement. Et en fait, ça représente assez bien le cas des usines textiles en France en général.
Eh bien, moi, je suis venue avec un contrat de travail par mon oncle et ma tante. Mais toutes les frioulanes qui étaient ici, l'usine Naef cherchait envoyées en Italie, et elles sont toutes venues avec un contrat de travail. Hein. Et elles logeaient au foyer de jeunes filles. Moi, je travaillais la salle le 7, et les personnes âgées travaillaient au 4e, ils faisaient les doublures. Que moi, je travaillais sur les métiers, on faisait du tissage un peu soigné, quoi. Des pièces qui partaient au Moyen-Orient. Il y avait même du lamé, du doré, alors on n'avait que deux métiers, on était au milieu, il fallait bien surveiller. Que ceux qui faisaient les doublures avaient six métiers. Et si un fil cassé, il s'arrêtait tout seul. Mais s'il y avait un défaut et que ça ne s'arrêtait pas, il fallait aller chercher la gouvernante. Elle arrivait, il fallait ajuster vraiment où on avait des faits. Il fallait reprendre sans que ça se voie. Parce qu'après, on allait à la visite, on était payé au métrage. Et s'il y avait des défauts, ben, fallait couper la pièce, ben, on était moins payé. Alors des fois, on allait aux toilettes sans arrêter. Et Peter, il avait un parfum, il sentait l'oyer. Alors on disait, parce que s'il arrivait qu'on n'était pas là et que les métiers tournaient, bon. Mais il avait un parfum, alors on se le disait, il arrive. Mon Dieu. Moi, j'aimais bien travailler à l'usine. Parce que je travaillais sur des pièces un peu jolies, quoi. Alors ça changeait, ça... Moi, j'aimais beaucoup travailler à l'usine.
Un documentaire de Caroline Fontana et Marie Marquet avec Jeanne Actis, Christiane Martin, Marie Marquet, Germaine Bernard, Claudine Pellissier, Bianca Arnaud et une lecture de Lola Berthet de la correspondance de deux pensionnaires des couvents-usines.
Cette capsule sonore a été réalisée dans le cadre de la recherche Action Matrimoine Andiwa, qui a pour ambition de mettre en lumière l'œuvre et l'héritage, souvent invisibilisés des femmes. Le matrimoine et le patrimoine constituent à part égale notre culture commune, dans une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous pouvez retrouver les autres capsules sonores sur le site matrimoine-en-diwa.fr.